Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est une heure et demie d'infos et même plus, jusqu'à 19h30, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, le dénouement dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia. L'enfant de 8 ans a été retrouvée avec sa mère dans un squat en Suisse ce matin. Elle est en bonne santé, elle sera remise à sa grand-mère qui en a la garde. La mère, elle est en garde à vue en Suisse. Retour sur cette cavale de 5 jours dans un instant avec notamment les explications du procureur. L'indignation des syndicats de policiers après le verdict dans le procès en appel de l'attaque de policiers brûlés au cocktail Molotov en 2016 à Viry-Châtillon. Verdict plus clément qu'en première instance. 8 acquittements pour 5 condamnations de 6 à 18 ans de prison. Le syndicat Alliance appelle à des rassemblements mardi midi. Nous serons avec l'un de ses représentants. La défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca prend de plus en plus d'ampleur. Hier à Nice, 4000 doses disponibles et seulement 58 injections. Ce vaccinodrome a donc dû être fermé, mais il n'est pas le seul dans ce cas. Nous irons ainsi à Douai et puis on verra si cette défiance est justifiée ou non. La France extrêmement préoccupée par l'état de santé d'Alexei Navalny, l'opposant russe détenu depuis son retour en Russie, est en grève de la faim depuis le 31 mars. Jean-Yves Le Drian parle de la responsabilité majeure de Vladimir Poutine. Vous l'entendrez, puis on ira à Moscou où les partisans de Navalny veulent remobiliser pour le sauver. Le football, la suite de la 32e journée. Victoire sur le fil du Paris Saint-Germain. 3-2 face à Saint-Etienne. Les Parisiens récoltent à un point du leader Lille. Victoire de Dijon face à Nice 2-0. De Nîmes face à Strasbourg 1-0. Match nul entre Reims et Metz 0-0. Et entre Brest et Lens, 1-1. Et puis depuis 17h, Bordeaux reçoit Monaco. On en est où, Denis Grandjeau?
Eh bien, c'est la mi-temps et Monaco mène depuis la demi-heure de jeu grâce à son buteur allemand, Kevin Volland, 1-0. Donc, et côté bordelais, pas de surprise puisque 0 tir cadré. On est vraiment dans les stats habituels des Girondins.
Voilà, et on vous retrouve dans 20 minutes ce soir à 21h, Nantes-Lyon. Ce sera à suivre sur RTL. La Formule 1 à Imola en Italie, victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton. Et puis ce soir, ce sera le début d'une nouvelle vie de pilote pour le français Romain Grosjean, sorti des flammes, vous vous en souvenez, à Bahreïn fin novembre. Il débute ce soir en IndyCar. Une info tennis importante, Federer jouera le prochain tournoi de Roland-Garros. Le quintet de Longchamp, 3, 2, 4, As et 11. Et puis le temps, Valérie Quintin, il restera encore des gelées la nuit prochaine au nord du pays.
Oui, alors en principe, ce sont quand même les dernières, mais on va avoir un petit zéro, voire un peu en dessous à Rennes, à Nevers ou encore à Rouen au réveil, avec un ciel globalement bien dégagé. Ce sera un petit peu plus gris déjà dès le matin sur la façade est du territoire, et dans la journée, des averses vont reprendre dans l'après-midi, depuis la Lorraine et l'Alsace jusqu'à la Corse à nouveau. Ce seront des orages encore dans la partie sud, mais un petit peu moins virulents que ce qu'on a connu ce week-end. La limite plus neige va remonter à 1500 mètres et pour une large moitié ouest, un temps qui va rester relativement bien ensoleillé avec des températures qui vont grimper un peu enfin demain après-midi. On attend 14 à Strasbourg, 15 à Lille, 16 degrés à Brest et à Lyon, 17 à Paris, 18 à Nantes et Marseille, 19 à Toulouse et 20 degrés à Bordeaux et à Montpellier.
Et pour le reste de la semaine, du mieux, mais petit à petit.
Oui, alors faut pas être pressé quand même, hein, parce que mardi et mercredi, des averses vont circuler d'ouest en est sur pratiquement tout le pays. Les températures vont grimper très légèrement, 5 degrés de moyenne au nord le matin, 7 pour la moitié sud, 17 à 18 suite dans la journée. Jeudi et vendredi seront de plus en plus ensoleillés. Il faut tout miser sur la journée de vendredi. Ce sera la plus belle de la semaine. Mais les températures resteront assez fraîches. On va être vraiment tout juste dans les normales avec 4 degrés de moyenne au nord le matin, 8 au sud, 16 à 20 l'après-midi.
Merci Valérie. Avant 18h30, on se laissera tenter par Jamel Cherigui, un épicier de Roubaix devenu un phénomène littéraire. À 18h30, à suivre cette semaine, jeudi, Thomas Pesquet, retour dans l'espace à bord de SpaceX, direction l'ISS. Eh bien, le spationaute aux 3 mission, Jean-François Clairvoy sera avec nous pour en parler. La journée des librairies et les 40 ans du prix unique du livre, c'est-à-dire la loi Lang. On en parlera avec la présidente du syndicat de la librairie française, Anne Martel. Ensuite, autoradio version assurance. À 19h, le MacPol et notamment le grand jury de Julien Bayou. Et à 19h15, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Et ce soir, un invité exceptionnel, Nicolas Hulot.
Vincent Parisot.
RTL dimanche soir.
Cinq jours après son enlèvement chez sa grand-mère par des hommes interpellés depuis, placés en garde à vue, eh bien la petite Mia, âgée de 8 ans, a donc été retrouvée ce matin en Suisse, dans le canton de Vaud. L'enfant se trouvait dans un squat avec sa mère. Mia est en bonne santé. Elle va d'ailleurs retrouver sa grand-mère. Dimitri Ramelot, vous avez assisté à la conférence de presse du procureur. Bonsoir.
Bonsoir.
Procureur, bien sûr, soulagé et qui est revenu en détail sur toute cette affaire en soulignant notamment que l'enlèvement de Mia avait vraiment été conçu comme une opération militaire.
Oui, une opération extrêmement bien préparée, menée par un groupe actif de 5 hommes qui ont baptisé l'enlèvement Opération Lima. Chacun son surnom, Jeannot, Pichoun, Le Corbeau, Bruno ou Basile. 4 sont actuellement devant le juge d'instruction. Le 5e n'a pas encore été interpellé. Ce quintet, socialement intégré, sans aucun antécédent judiciaire, s'est rencontré sur les réseaux sociaux. Haine de l'État, mobilisation contre la dictature sanitaire, refus du placement d'enfants. Le groupe a été recruté par un certain Bouga. Le cerveau de l'opération, une connaissance de la mère de Mia, et c'est donc cet homme de 43 ans qui a imaginé la logistique, comme l'explique François Perrin, procureur de la République de Nancy.
Bouga a acheté des Tokiwoki et des téléphones portables en vue de cette expédition. Un budget de 3000 euros a été dégagé pour assurer les frais courants, essence, péage, mais également pour qu'une partie de cet argent soit remis donc à la mère de l'enfant. Il y a également du petit matériel. Pichoun va donner donc à Jeannot un postiche. Puis ils vont se procurer également de l'équipement de camping type tente.
Car rien n'avait été laissé au hasard, le groupe actif est parti dès dimanche de région parisienne avant de dormir de nuit dans la forêt en attendant de passer à l'action.
Dimitri, est-ce que l'on sait ce soir où Mia et sa mère se trouvent et est-ce qu'elles vont devenir dans les prochaines heures ?
Elles sont toutes les deux toujours en Suisse, entre les mains de la police locale. Une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse est immédiatement partie de France ce matin, peu après l'interpellation à 10h45, pour aller récupérer Mia, une équipe composée d'une assistante sociale et d'un psychologue. Sa mère, Lola Montemaggi, est interrogée en garde à vue. Un mandat d'arrêt européen doit permettre leur retour très rapide en France. La fillette de 8 ans sera rendue à sa grand-mère dans des conditions qui restent à déterminer, le colonel Brice Mangou, patron de la gendarmerie des Vosges.
Aujourd'hui, il s'agit en effet de protéger une enfant qui est en bonne santé, on nous le dit, mais il reste à savoir comment elle a vécu toute cette histoire-là. On doit aussi protéger une grand-mère qui a été énormément sollicitée pendant toute cette semaine. Et puis, il y a toujours ce risque de cette mouvance qui pourrait faire peut-être de Mia une sorte de symbole. Et nous, notre travail aujourd'hui, si ce retour dans les Vosges se fait, c'est de protéger Mia, sa grand-mère et tous ceux qui l'entourent.
Ça veut dire que ça ne se fera probablement pas chez la grand-mère ?
Ça veut dire que ce sera dans les conditions pour assurer la sécurité de l'enfant et de sa famille.
Et donc probablement pas de retour aux Poulières pour Mia, mais dans un autre endroit dans le département. Plus au calme.
Dimitri Ramelot, correspondant d'RTL à Nancy. Le désarroi et la colère s'expriment donc de plus en plus fortement dans les rangs des syndicats de police ce soir après le verdict en appel pour les accusés de l'attaque de policiers brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon en 2016. 8 acquittements pour 5 condamnations de 6 à 18 ans de prison. Verdict nettement plus clément qu'en première instance. D'ailleurs, bizarrement, ça a donné lieu à une bataille rangée dans les rangs des prévenus, mais évidemment, du côté des victimes et de leurs familles, l'heure est à l'abattement, à l'incompréhension. Les avocats des victimes parlent même d'un naufrage judiciaire. En tout cas, Valentin Boissé, vous étiez sur place, vous avez assisté au verdict cette nuit.
Oui, un verdict sous haute tension. La présidente de la Cour n'a même pas pu finir de l'énoncer que certains accusés en sont venus aux mains dans le box des accusés. Les violences se sont ensuite étendues dans la salle où se trouvaient certains de leurs proches. Maître Thibault de Montbrial représentait une policière grièvement blessée en 2016.
Nous venons d'assister à un naufrage judiciaire. Une bagarre générale a éclaté. Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté d'en agresser un autre et ont pris à partie également les gendarmes dans une scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises.
Et en 10 minutes, le calme revient. À la sortie, 8 acquittements, c'est plus qu'en première instance. Alors côté parti civil, les mines sont résignées. Perrine Salé est porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en Colère.
Aujourd'hui, c'est une décision déplorable, abjecte, infâme. Moi qui suis compagne de policier aujourd'hui, je vais pouvoir en craindre d'autant plus que la justice ne condamne pas les personnes qui tentent d'assassiner des policiers en les brûlant vifs. Moi j'ai de la peine aujourd'hui pour ce policier qui est le plus grièvement blessé et qui aujourd'hui subit encore les conséquences de ces brûlures.
Satisfaction en revanche pour les avocats de la défense comme Maître Mogé Poliak, avocate d'un acquitté qui parle d'un démenti total de l'enquête. Elle a désormais l'intention de porter plainte pour faux en écriture publique contre les enquêteurs de cette affaire.
Merci Valentin Bouassé. Invité d'RTL dimanche soir, Claude Cariot, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué du syndicat de policiers à Alliance pour l'Essonne. Hein. L'Essonne, c'est le département de Viry-Châtillon. Dites-nous, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ce verdict ?
Bien, colère et incompréhension. Incompréhension parce que derrière, déjà, il y avait une différenciation des sanctions avec des gens acquittés et d'autres condamnés. Je rappelle quand même que ce sont des individus, 19 individus qui sont allés en opération commando, qui a pris 45 secondes de manière très structurée, très programmée. Qu'il y ait tant de différences entre les uns et les autres, c'est incompréhensible. Et surtout, les actes qu'ils ont commis, à savoir qu'ils ont quand même mutilé l'un de nos collègues. Il y a des conséquences physiques et psychologiques très fortes. Et là, les conséquences judiciaires sont minimes, sont vraiment minimes et incompréhensibles.
On entend votre colère, votre désarroi. Est-ce que vous avez une explication ? Vous avez entendu du côté de la défense, on souligne que l'enquête avait été mal ficelée. Il y a même des soupçons sur la manière dont l'enquête a été menée.
Bien écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que les enquêteurs, grâce à eux, on a pu identifier les individus, déjà au moins 15 individus sur place. Hein, ça s'est pas fait facilement, puisque les enquêteurs ont dû faire face à la loi du silence du quartier. Hein, quand je dis loi du silence, c'est par exemple l'enquête de voisinage, vous allez frapper à une porte, on vous ouvre pas la porte et vous passez ainsi de suite, hein, où tout le monde s'observe pour se tabasser si éventuellement quelqu'un est soupçonné de parler. Donc cette enquête est très difficile, très très difficile, et à un point tel que les identifications des individus, les auditions qui ont été faites, c'est franchement un travail acharné qui a permis les identifications des auteurs.
Claude Cariot, votre syndicat Alliance appelle à une mobilisation, c'est ça, après-demain, mardi ?
Oui, tout à fait. On appelle à une mobilisation déjà pour soutenir nos quatre collègues, hein, leur montrer que même si la justice ne soutient pas les policiers se soutiennent entre eux, et puis montrer notre désaccord avec la justice, parce que là, alors qu'on devait avoir une décision emblématique pour sanctionner et arrêter le fléau de la violence envers les policiers, là aujourd'hui, il y a un chèque en blanc qui est signé par la justice pour agresser les policiers, et ça, on peut pas le tolérer. Donc, ces rassemblements qui sont demandés devant les tribunaux, et notamment celui de Paris à midi et demi mardi, est important, parce que soutenir nos quatre collègues, c'est important, et surtout montrer à la justice que les policiers sont solidaires.
Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur RTL. Claude Cariot, délégué Alliance pour le département de l'Essonne. Un accident d'un petit avion de tourisme a fait 4 morts cet après-midi dans le nord de la Seine-et-Marne, à Saint-Pathus. L'appareil avait décollé de Beauvais. La carcasse a été retrouvée à 50 mètres d'une route départementale, à une vingtaine de kilomètres des pistes de Roissy. Il s'agissait d'un vol d'instruction. On marque une courte pause et dans un instant, la défiance des Français face à l'AstraZeneca.
Vincent Parisot,
RTL dimanche.
RTL dimanche soir.
Vincent Parisot.
Plus les jours passent et moins les Français semblent faire confiance au vaccin AstraZeneca, ouvert aux plus de 55 ans. Sur le terrain, la défiance apparaît même de manière très claire, très spectaculaire, comme à Nice, où le vaccinodrome, qui disposait de 4000 doses, n'a trouvé hier que 58 volontaires. Il a donc dû fermer. Et ce rejet affiché, hein, à l'égard de l'AstraZeneca, eh bien, on le retrouve ailleurs en France. De nombreuses doses ne trouvent pas preneur. Les candidats à l'injection font souvent demi-tour en apprenant le nom du vaccin qu'on leur propose. Et ainsi, comme à Nice, eh bien à Douai, dans le Nord, le vaccinodrome a baissé le rideau. Antoine Decarne.
Oui, le parc d'exposition Gaillan Expo devait ouvrir tout le week-end. Alors Roland, directeur d'école, qui pouvait enfin se faire vacciner, est venu. Mais les grilles vertes du centre de vaccination étaient fermées.
Et donc je suis là, il n'y a personne. On m'a dit que c'était au niveau des tentes. C'était prévu qu'on a reçu un mail. Il fallait se présenter simplement. Et bon, ils ont peut-être que de l'Astra ici, puis les gens refusent.
C'est exactement ça. La preuve, les quelques personnes qui n'étaient pas au courant de la fermeture auraient, elles aussi, rebroussé chemin.
L'AstraZeneca, j'aurais essayé de voir s'ils vaccinaient autre chose, sinon non. Vu ce qu'on entend sur l'AstraZeneca, on est un peu réticent.
Si on vous avait dit que c'était de l'AstraZeneca?
Ah ben non. Parce que déjà, avec mon âge, et puis j'ai encore envie de vivre, si vous voulez.
La défiance est bien là. Sur les 900 doses disponibles à Douai ce week-end, 80 ont été injectées vendredi et 170 hier. C'était trop peu pour rester ouvert. Salia Grévin est la directrice du centre de vaccination.
Les gens, quand ils arrivent à l'accueil, la première chose qu'ils demandent, si c'est bien du Pfizer. Il y a certaines personnes qui vérifient sur la seringue s'il y a bien l'étiquette Pfizer. Les gens essaient de choisir et moi je pense que c'est le problème qu'on a.
Alors dès demain, elle tentera d'administrer ses doses, notamment avec les médecins généralistes plus proches de leurs patients. L'AstraZeneca est systématiquement proposé, mais même là, il n'est pas toujours accepté.
Reportage signé Antoine Decarne. Donc voilà pour la situation sur le terrain dans les vaccinodromes. La défiance à l'égard de l'AstraZeneca est évidente. Ça interroge évidemment sur la suite du programme de vaccination en France. On fait le point avec vous, Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Alors ces candidats à la vaccination, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter et de préférer passer leur tour en attendant un autre vaccin comme le Pfizer ou le Moderna, à savoir des vaccins ARN?
Alors, seul effet secondaire identifié, un risque accru de caillot sanguin qui a été constaté sans pouvoir toutefois prouver le lien avec le vaccin. Mais il y a eu en France 23 cas de thrombose rare, dont 8 décès sur plus de 2 700 000 injections. C'est un risque extrêmement faible. Tous les cas jusqu'à présent étaient constatés chez les moins de 55 ans, mais les derniers malades en France étaient plus âgés. La France l'a signalé à l'Agence européenne du médicament. Était-il vraiment utile de l'interdire aux plus jeunes? Quoi qu'il en soit, si on regarde la totalité des personnes vaccinées en Europe, le risque est de 5 cas par million de vaccinés. On a 10 fois plus de risque d'avoir une thrombose si on attrape le Covid. Ce risque est bien supérieur quand on prend l'avion. Et il ne faut pas que ce qui s'est produit à Nice laisse entendre que les Français ont peur de l'AstraZeneca. Les médecins en ville et les pharmaciens ont suffisamment de candidats. Ce ne sont pas les patients qui manquent, disent-ils, ce sont les doses.
Voilà, merci pour ces précisions, Virginie Garin, de service santé d'RTL. La santé, justement, l'état de santé d'Alexei Navalny, l'opposant russe incarcéré depuis son retour et en grève de la faim depuis fin mars, inquiète les capitales occidentales. Le ton monte avec Moscou. La Maison-Blanche avertit qu'il y aura des conséquences pour la Russie si Navalny venait à décéder. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont d'ailleurs en discuter demain. Mais Berlin exige qu'il y ait accès à des médecins. Et pour la France, eh bien Jean-Yves Le Drian s'est exprimé aujourd'hui en parlant de la responsabilité de Vladimir Poutine.
Moi, je considère que la situation de M. Navalny est extrêmement préoccupante. Et je constate qu'il y a vraiment une dérive autoritaire en Russie. Le cas de M. Navalny étant le plus exemplaire, le plus symbolique, le plus frappant pour les esprits. Je considère que la Russie a la responsabilité de la santé de M. Navalny. Il faut qu'elle l'assume. Il n'y a pas de raison qu'il soit emprisonné.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères sur France 3. L'ambassadeur de Russie à Londres a réagi en assurant que son pays ne laissera pas Navalny mourir en prison. De leur côté, les partisans du principal détracteur du Kremlin appellent les Russes à manifester mercredi prochain, le 21 avril, et cela pour sauver sa vie. À Moscou, pour RTL, Julien Colling.
Après plus de 2 semaines de grève de la faim, l'opposant a déjà perdu 18 kilos et la porte-parole de son fonds anticorruption a même tweeté hier que sa vie ne tenait plus qu'à un fil à cause désormais de défaillances rénales et également d'une arythmie cardiaque. Rappelons que Navalny et son équipe demandent donc qu'il ait accès à des soins en dehors de la colonie pénitentiaire où il se trouve actuellement. Et cette situation fait de nombreux remous au niveau international. Du côté russe, on continue d'assurer que les autorités n'ont aucune intention de laisser mourir simplement Navalny en prison. En tout cas, les proches d'Alexei Navalny souhaitent désormais faire pression sur le pouvoir russe dans la rue. Ils appellent aujourd'hui à une grande manifestation de soutien à travers toute la Russie. Un timing particulier est bien choisi puisque mercredi, c'est justement le jour de l'adresse annuelle de Vladimir Poutine devant tous les parlementaires russes. Un moyen donc pour son équipe d'accroître l'attention le plus possible autour de son état de santé et de son emprisonnement.
Julien Colling à Moscou pour RTL. Allez, le sport. Avant de retrouver le football, place au moteur quand même, puisqu'au Portugal, le français Fabio Quartararo brille encore. Il s'impose pour la 2e fois d'affilée en MotoGP. Il prend la tête du championnat du monde. C'est la 5e victoire de sa carrière dans cette catégorie. C'est un record pour un pilote tricolore. En Formule 1, le Grand Prix d'Imola, il a été remporté par Max Verstappen sur Red Bull devant Lewis Hamilton sur Mercedes. La Formule 1 qu'a quitté, vous le savez, le Français Romain Grosjean après son terrible accident fin novembre à Bahreïn. Mais avec la Formule IndyCar, eh bien, Grosjean entame ce soir une nouvelle vie de pilote, Frédéric Veil.
Oui, et même s'il a encore les stigmates de son effroyable accident, il n'y a qu'à regarder sa main gauche et son énorme cicatrice due aux brûlures, eh bien Romain Grosjean n'a rien perdu de son talent. Septième temps hier des qualifications pour un rookie, un débutant en IndyCar, c'est juste exceptionnel.
Je me réjouis vraiment, une nouvelle aventure, un nouveau challenge, complètement différent, donc beaucoup d'inconnus. Toujours effectivement une petite inconnue sur ce que ça va donner au départ, puisque le dernier départ que j'ai pris, c'était Bahreïn 2020, donc c'est sûr qu'il y a un peu une petite question là, mais pas d'appréhension, plutôt de l'envie, de l'excitation. Après, si les choses se passent bien, c'est sûr, je dirais pas non à un bon résultat, mais l'objectif c'est d'apprendre.
Apprendre et mettre en lumière ce championnat IndyCar où il retrouve Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis en 2019.
C'est un gros avantage pour le championnat d'avoir quelqu'un comme Romain qui vient de la F1, parce que Romain a un soutien énorme dans le monde entier. Donc ça, c'est très positif pour tout le monde. Après Romain, il va falloir qu'il s'adapte. Ça va être une belle aventure pour lui. Je lui souhaite le meilleur et je suis heureux qu'il nous rejoigne.
Et bien évidemment, on est tous heureux de voir Romain Grosjean, le miraculé, à nouveau dans une voiture de course.
Frédéric Veil, le spécialiste des sports mécaniques sur RTL. On en arrive au football avec la suite de la 33e journée. Je vous rappelle la victoire en début d'après-midi sur le fil, hein, dans les toutes dernières secondes, du Paris Saint-Germain sur Saint-Etienne. 3-2. Du coup, les Parisiens récoltent à un point du leader Lille. Victoire de Dijon face à Metz, à Nice, pardon, de Dijon face à Nice, 2-0. Match nul entre Reims et Metz, 0-0. Nul également entre Nîmes et Strasbourg, un but partout. Entre Brest et Lens, un but partout également. Et donc, depuis 17h, c'est Bordeaux-Monaco et les Monégasques ont enfoncé le clou, Denis Grandjou.
Oui, avec un événement, puisque le gardien monégasque, Benjamin Lecomte, vient de toucher son tout premier ballon après une heure de jeu. Ça montre l'efficacité des Girondins de Bordeaux. Ils sont menés 2-0, très logiquement, hein, les Girondins, par une équipe de Monaco tranquille, les buteurs Voland et Martins. Et à mon avis, c'est pas terminé. 2-0, une demi-heure encore à jouer ici à Bordeaux.
Merci. Et puis ce soir à 21h, ce sera Nantes-Lyon à suivre sur RTL. On marque une courte pause et puis dans un instant, on va se laisser tenter avec la révélation littéraire du printemps.
Vincent Parisot, RTL dimanche soir.